Europe 1.
Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de Grace Kelly, Les rôles d'une vie, la petite bourgeoise de Philadelphie a quitté son exigeante famille de sportifs pour devenir actrice. Belle, intelligente et charismatique, la jeune femme se construit une carrière de star et décroche un Oscar en moins de 5 ans. Ses rôles dans les films d'Alfred Hitchcock ont fait d'elle une actrice incontournable. En 1955, Grace est invitée au Festival de Cannes. À l'occasion d'un shooting, elle se rend à Monaco où sa rencontre avec le prince Rainier III va bousculer ses plans de carrière. Épisode 2, un rôle de princesse. Nous sommes le 6 mai 1955 à Monaco. Grace vient de laisser les journalistes de Paris Match avec qui elle faisait des photos pour visiter le palais avec le maître des lieux. Rainier III aura 32 ans dans quelques jours. Il est devenu prince 6 ans plus tôt, en 1949, après la mort de son grand-père Louis II et l'abdication de Charlotte, sa mère. Jeune, il a souvent été pris pour un garçon gauche et timide, un souverain fantoche que l'homme d'affaires Aristote Onassis pense manipuler comme une marionnette. Mais Rainier possède en réalité un fort caractère. Il a lavé l'honneur de son rocher en rompant avec la politique collaborationniste de son grand-père proche des nazis, et il a l'intention de devenir le seul patron de son minuscule état, le plus petit du monde après le Vatican. Il sait que pour faire rayonner la principauté et lui conserver son attraction auprès des touristes, il doit se trouver une épouse qui ferait office d'ambassadrice. Il a renoncé à son premier amour, l'actrice Gisèle Pascal, parce qu'elle n'était pas assez connue et aimée des monégasques. Alors, sur les conseils d'Aristote Onassis, il s'est tourné vers les stars hollywoodiennes. Et c'est elle qu'il a voulu rencontrer, Grace Kelly. L'actrice oscarisée charme immédiatement le prince. Elle est distinguée, calme et maîtresse d'elle-même. Pendant la visite du palais, ils se découvrent intuitivement des fêlures communes comme le sentiment de ne pas avoir été aimé par leurs parents. Comme elle, le prince veut faire ses preuves, gagner le respect et l'admiration. Grace n'a jamais été intéressée par le mariage. Elle ne veut pas épouser un homme qui serait dans l'ombre de sa célébrité et qui deviendrait Monsieur Kelly. Elle souhaite un partenaire qui existe par lui-même en dehors du monde factice du cinéma. Quelques années auparavant, elle était tombée amoureuse du grand couturier Oleg Cassini, mais ses parents se sont opposés au mariage parce que le couturier, qui avait 17 ans de plus qu'elle, était plusieurs fois divorcé. En moins d'une heure, Grace et Rainier sentent qu'ils pourront faire de grandes choses ensemble. Elle comprend vite qu'elle pourrait endosser le rôle de princesse et d'ambassadrice du rocher. C'est un rôle à sa mesure. Après le festival de Cannes, Grace rentre aux États-Unis. La MGM lui a programmé un nouveau tournage. Elle devra camper une princesse dans le signe de Charles Vidor. Entre deux prises, l'actrice écrit de longues lettres au prince monégasque. Au fil des pages, ils tombent amoureux. Noël 1955. Philadelphie est en émoi. Le prince Rainier III est en visite aux États-Unis et s'apprête à dîner chez les Kelly. Cependant, il y a eu un petit quiproquo linguistique. Les parents de Grace s'attendaient initialement à recevoir « The Prince of Morocco ». Le prince du Maroc. Mais le prince de Monaco, ça leur va très bien aussi, hein. Un prince est un prince. Pour John Kelly, qui s'est lancé en politique, fréquenter les têtes couronnées fait partie de sa réussite sociale bien méritée. À l'issue du réveillon, Rainier III et Grace Kelly annoncent publiquement leurs fiançailles. Leur mariage aura lieu au printemps prochain. En attendant, le prince retourne dans son palais et Grace tourne un dernier film, Haute Société, pour lequel elle refuse de quitter sa bague de fiançailles. C'est une manière pour elle de se rebeller contre les producteurs qui ne la laissent faire aucun choix. Mais les contrats de la MGM sont ainsi faits. Elle appartient à son studio. Pour mettre fin à ses obligations tout en faisant de la publicité au Rocher, Régnier cède les droits de diffusion télévisuelle de son mariage à la MGM. Ce sera le mariage du siècle. Début avril 1956, Miss Kelly se rend à New York pour embarquer à bord du paquebot Constitution et rallier Monaco. Elle est prise d'assaut par des centaines de journalistes qui se bousculent et s'insultent pour l'approcher. Les caméras captent son air hagard au milieu de cette foule masculine en mal de scoop. Depuis le pont du paquebot, elle salue les foules avec élégance. Sa main gantée de blanc s'agite doucement sur le fond beige de son manteau, puis elle s'autorise enfin à rentrer dans sa cabine. Le 12 avril, le Constitution arrive en rade de Monaco. Régnier l'attend sur son yacht, au milieu d'une mer couverte par les embarcations des journalistes. Dans une robe manteau noire, le visage caché par une capeline blanche, elle passe d'un navire à l'autre. Pendant la semaine suivante, Grace passe de cocktail en réception au bras de son prince. Elle apprend le protocole à toute vitesse. Comment se tenir, comment saluer, comment s'adresser aux gens. Tout cela met ses nerfs à rude épreuve, mais elle continue de sourire. Dans les rares instants d'intimité avec Régnier, elle caresse l'idée d'une fugue durant laquelle ils iraient se marier tous les deux, en secret, dans une petite église de l'arrière-pays niçois. Nous sommes le 19 avril 1956. La MGM assure la retransmission du mariage du siècle. Les têtes couronnées et les stars de Hollywood ont fait le déplacement. Enfin, Grace Kelly apparaît dans sa robe de mariée. Elle lui a été offerte par ses producteurs, comme le veut la tradition du studio quand une actrice se marie. 25 mètres de taffetas, 100 mètres de tulle, des milliers de perles cousues à la main. Alors que tout se déroule pour le mieux, le mariage du siècle va être perturbé par l'arrivée d'un invité surprise. Charlotte Grimaldi, la mère de Régnier, arrive à la noce avec son nouveau chauffeur. Le problème est que celui-ci est soumis à une interdiction de se rendre sur le territoire monégasque. La police a bien reconnu René Lacanne, un mafieux tout juste sorti de prison, mais elle ne peut pas interdire l'accès du palais à la princesse Charlotte. Femme divorcée, libérée et émancipée, la mère de Régnier est devenue assistante sociale en prison. C'est là qu'elle s'est entichée de cet homme, son dernier amant en date, qu'elle fait passer pour son chauffeur. Régnier est furieux et Grace outrée. Sa belle-mère, qui clame haut et fort détester les Américains, est quasiment une femme de mauvaise vie à ses yeux. Les deux princesses ne s'entendent guère, mais elles ne se verront pas souvent. Charlotte peut continuer à courir le monde avec ses repris de justice. Grace est bien décidée à être la parfaite altesse de Monaco. Le couple se découvre réellement dans les semaines qui suivent le mariage. Leur amour est tendre et sincère. Ils ont le même sens du devoir. Grace apprend vite le français, même si elle garde un accent à couper au couteau. Elle se lance dans de nombreuses œuvres caritatives, dont la Croix-Rouge, ce qui lui vaut rapidement le surnom de « princesse des pauvres ». Et elle est une épouse modèle. Au final, comme sa sœur et sa mère, elle est devenue une femme trophée, bien élevée et mondaine. La starlette émancipée d'Hollywood a été balayée par une femme en accord avec les mœurs bourgeoises de son temps. Mais surtout, Grace ne manque pas à son devoir le plus important. Elle tombe vite enceinte. Les parents Kelly auraient été scandalisés en apprenant que leur fille avait subi un examen de fécondité avant son mariage. Pourtant, perpétuer la dynastie des Grimaldi était au cœur de son nouveau rôle. Le 23 janvier 1957, 21 coups de canon résonnent dans la principauté pour célébrer la naissance de Caroline, la première fille du couple. Le prince et la princesse ont embauché des attachés de presse spécialisés dans la vie des stars. Avec leur complicité, ils font de cette naissance un événement médiatique au service de la principauté. Leur vie doit désormais servir de publicité au Rocher. Un shooting privé est organisé à l'hôtel de Paris. Les clichés de la princesse serrant sa fille dans ses bras sont vendus aux enchères aux journaux. Les médias français s'arrachent les images de la famille princière. Paris Match, artisan de la formation de ce couple mythique, propose 6 millions de francs pour en avoir l'exclusivité. Mais François remporte le scoop en l'achetant 7 millions. La machine médiatique s'emballe à nouveau pour la deuxième grossesse de la princesse. Le 14 mars 1958, 101 coups de canon sont tirés pour célébrer la naissance d'Albert. Encore une fois, la présentation du nouveau-né aux médias est mise en scène. Les caméras captent l'image d'une grâce très professionnelle qui, bien qualité, se recoiffe énergiquement avant de prendre son bébé dans les bras. Joue contre joue avec l'enfant, elle sourit aux journalistes et offre à Paris Match l'une de ses plus belles couvertures. Régnier et Grâce jouent avec les médias. Ils leur offrent régulièrement de belles photos et ce commerce leur évite de faire l'objet de paparazzades. Le couple s'autorise des moments d'intimité avec leurs enfants. Dans ces occasions, Grâce passe derrière la caméra. Elle filme les jeux de ses petits, Albert en cow-boy et Caroline en indienne. Mais la vie publique les rappelle à leurs devoirs et Grâce va s'avérer être très diplomate en temps de crise contre la France. La principauté de Monaco est étroitement liée à l'Hexagone depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Le traité d'amitié protectrice de 1918 fait de la principauté un protectorat français qui permet au président de la République une certaine ingérence dans les affaires de Monaco qui se développe comme un paradis fiscal. La France peut, par exemple, exercer un contrôle sur les organes de presse monégasques, RMC, Radio Monte Carlo, et TMC, Télé Monte Carlo, afin d'aligner leur programmation sur celle de l'ORTF. Cette tutelle devient insupportable pour Régnier. Il décrète de manière unilatérale l'indépendance de ses médias et révoque le représentant de la France dans son pays. Le sang du général de Gaulle ne fait qu'un tour. Le couple Grimaldi rencontre le couple de Gaulle pour tenter d'aplanir la situation. En vain. Le général pense que Grâce est un agent américain qui œuvre contre les intérêts de la France. Le 12 octobre 1962, le conflit s'envenime. La France déclare le blocus de Monaco. La douane française surveille étroitement la frontière du Rocher et crée délibérément de longs embouteillages. L'opposition de Régnier est audacieuse car son rocher dépend de la France pour toutes ses infrastructures, des voies ferrées à l'électricité. Au final, le couple obtient l'autorisation de rédiger une nouvelle constitution reconnue par la France. Régnier s'impose comme le seul maître de son rocher et il a choisi la bonne épouse pour l'épauler. En 1965, 3 ans après ce coup de poker politique, le couple donne naissance à Stéphanie, son troisième enfant. Grâce reconnaît en elle la petite fille au tempérament d'artiste qu'elle a été. Toujours souriante devant les caméras, la princesse est une icône qui se fane imperceptiblement en privé. Alors que Régnier développe le parc immobilier de Monaco et se consacre aux courses automobiles et aux animaux, elle passe de plus en plus de temps seule. Dans ses moments à elle, elle lit beaucoup, comme lorsqu'elle était adolescente, et elle colle des fleurs dans des grands albums. Grâce devient mélancolique. Régnier pense que le cinéma pourrait la sortir de son abattement secret. Hélas, quand Hitchcock lui propose de tourner de nouveau avec lui, Grâce est obligée de décliner. Les Monégasques ont écrit des centaines de lettres et de pétitions au palais pour empêcher le départ de leur princesse pour Hollywood. Ils étaient convaincus qu'elle ne reviendrait jamais. Alors Grâce finit par renoncer. Régnier affirme publiquement que sa femme ne doit pas travailler. Grâce ne s'appartient plus. Une exception aura tout de même lieu pour un seul film. En 1982, un couple d'intimes du palais propose à Grace Kelly de jouer son propre rôle de princesse de Monaco dans un film intitulé « Rearranged ». Le scénario ne nuisant pas à son image, Grace peut retrouver les plateaux. Ses cachets seront d'ailleurs reversés à des œuvres caritatives. La langueur de la princesse semble s'évanouir. Elle bavarde de bon cœur avec les techniciens et participe au placement des décors. Mais son rôle la renvoie à l'existence factice dans laquelle elle s'est enfermée. Le film ne sera finalement jamais diffusé. À la fin du tournage, Grâce quitte pour la dernière fois un plateau de cinéma. L'été commence. Elle passe du temps à Rocagel, le ranch familial situé sur les hauteurs françaises qui surplombent Monaco. C'est là que Stéphanie apprend à conduire avant de préparer ses valises pour son stage de haute couture à Paris en septembre. Grâce a prévu d'accompagner sa fille. La princesse congédie son chauffeur et prend le volant. Elle s'engage prudemment sur la route de la Turbie qui descend en lacet vers Monaco. Elle rate un virage. La Rover défonce la glissière de sécurité et fait des tonneaux sur 40 mètres de dénivelé. La voiture s'écrase dans le jardin d'une villa privée. Il est 9h54. Vers 10h10 du matin, ce 13 septembre 1982, les pompiers sortent Stéphanie par la porte côté conducteur car la porte passager est bloquée. Elle est en sang et hurle que sa mère est morte. Grace, projetée sur la banquette arrière, souffre de plusieurs fractures aux jambes, aux côtes et à la tête. Elle est évacuée vers l'hôpital de Monaco où deux chirurgiens chevronnés tentent de résorber ses hémorragies cérébrales. Impuissants, ils demandent un scanner. Il faut pour cela déplacer la princesse vers un cabinet privé. L'imagerie prouve que les deux hémorragies cérébrales dues au choc sont incontrôlables. Le scanner montre aussi une autre tache dans le cerveau antérieure à l'accident. La princesse Grace de Monaco aurait fait un AVC sur la route de la Turbie. Voilà pourquoi elle aurait raté son virage. Elle meurt dans la soirée du 14 septembre 1982. Sa mort fait la une du JT. Ce jour-là, on ne parle même plus de la guerre du Liban. Pour ses obsèques, toute la presse et le Gotha sont venus à Monaco. Elle est inhumée le 21 septembre dans la cathédrale de Monaco. 40 ans après sa mort, elle demeure la plus grande ambassadrice du Rocher. Rien ne semble ternir l'aura de cette princesse à la beauté et au destin hitchcockien. C'est la fin de ce récit en deux parties consacré à Grace Kelly, les rôles d'une vie. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode et vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et TikTok pour avoir accès à des contenus inédits. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio produit par Adèle Imbert. Je suis l'auteur de ce récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Adèle Imbert et Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Julien Tarot a composé la musique originale ainsi que les musiques additionnelles avec Sébastien Guidis. Kelly Decroix est chargée de la communication et Élise Bertil de sa diffusion.